Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre d'Esdras, Esdras 7, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple d'Esdras, qui était une personne qui avait appliqué son cœur à l'étudier, à la mettre en pratique et aussi à l'enseigner. Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous te remercions. Nous te remercions de ce que ta parole nous est parvenue, qu'elle est disponible, elle est accessible. Elle n'est pas quelque chose d'ésotérique. Tu dis ce que tu veux dire et nous pouvons comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Merci de nous parler ce matin, de nous encourager à être des hommes de la parole, Seigneur, à avoir des vies qui te plaisent. Seigneur, ces choses, nous les prions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On a vu dans les 6 premiers chapitres de ce livre le retour de la déportation avec Zorobabel, et surtout ça a été la reconstruction du temple. Vous savez que je vous invite, si vous voulez plus de détails, à revenir à écouter en ligne les messages qui sont sur le site de l'église. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez taper Calvary Chapel Nice sur Google et vous aurez toutes les sites et blogs qui vous indiqueront où trouver ces messages que l'on prend la peine d'enregistrer et de conserver pour que vous puissiez revenir et si vous ratez ou si vous voulez réentendre un message. Là, on va voir que dans la deuxième partie du livre, c'est bien beau de restaurer les pierres, mais il faut restaurer les pierres vivantes que nous sommes. Esdras va être l'instrument d'un réveil parmi le peuple de Dieu qui sera revenu à Jérusalem. Et on a vu déjà que Dieu avait donné sa faveur aux Juifs qui étaient retournés rebâtir le temple à Jérusalem, en utilisant des souverains étrangers, païens, et en tout premier lieu, on avait vu au tout début le roi Cyrus. La Perse était devenue à l'époque le premier royaume du monde. C'est intéressant de voir que dans l'histoire, il y a toujours un royaume, un pays, une nation qui devient la plus puissante, la plus riche, mais que ça varie, ça tourne. La France a été un grand pays dans le passé, jamais le plus riche, mais maintenant on est en déclin. Là, les Babylone avait été envahie, conquise par la Perse, pays qui est aujourd'hui l'Iran. Et avec ses souverains, Dieu avait permis que un reste de personnes rentre à Jérusalem. Vous vous souvenez, c'était un grand nombre et un petit nombre en pourcentage, c'était à peu près 50 000 personnes sur une population de 2 millions à 2 millions 500 000 juifs qui habitaient en Perse. Et on avait vu qu'il y avait eu des difficultés, ils étaient repartis pleins de zèle, et puis devant les difficultés, ils avaient baissé les bras. On avait vu qu'il y avait des tactiques qui sont aussi des tactiques que Satan utilise avec nous, l'infiltration, l'intimidation, l'interdiction, qui avait abouti à l'interruption de la reconstruction du temple. Et puis c'est la parole de Dieu annoncée par les prophètes Agée et Zacharie qui avait donné un sursaut au peuple pour reprendre les travaux. Et on avait vu que l'œil de Dieu était sur les anciens, les responsables des Juifs, et qu'ils avaient ils avaient réussi à ne pas se laisser intimider par des responsables perses qui voulaient savoir d'où ils tenaient leur autorisation. Ils avaient fait faire des recherches dans les archives des rois de Perse pour retrouver l'édit de Cyrus qui leur permettait de reconstruire ce temple. Et puis, Dieu avait montré sa toute-puissance en retournant ces enquêtes de défiance en soutien financier aux frais de l'État pour la construction même du temple. Et là encore, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir conscience, dont nous devons toujours avoir conscience, c'est que le vrai patron, c'est pas Obama, c'est pas François, ni François Ier. Le vrai patron, c'est Dieu. Et quand il le décide, il peut retourner les choses qui se passent dans notre monde. Je vous encourage à continuer de prier par la foi pour que la loi sur le mariage homosexuel ne passe pas. Dieu peut le faire. Il s'en faut au Sénat de quelques voix, d'un côté comme de l'autre, qui pourraient décider qu'après tout, c'est vrai, on a l'impression que la faveur de Dieu n'est pas sur la France en ce moment, sur le gouvernement tout particulièrement, que les immoralités dans le domaine financier se multiplient. On ne parle pas des immoralités dans le domaine sexuel. On trouve tout à fait normal qu'on soit représenté à l'étranger par un président avec sa maîtresse. Ça me scandalise. Sa compagne, ce président qui est pour le mariage pour tous, encore une fois, n'est même pas marié, n'a jamais connu le mariage. Et je crois que c'est pas parce que le peuple sur lequel le nom de Dieu est inscrit, nous, c'est pas la faute à Hollande, c'est pas la faute aux députés, c'est nous qui connaissons Dieu, nous devons prier, nous devons avoir des vies exemplaires, nous devons aider autour de nous, nous devons annoncer la parole, nous devons soutenir l'Église, nous devons être des instruments de Dieu dans ce pays. Et nous devons cesser de vivre dans l'immoralité nous-mêmes. Je dois cesser le péché. Si j'ai des péchés dans ma vie, je dois, avec énergie, demander l'aide de Dieu pour que sa faveur puisse revenir sur le pays. Et la faveur de Dieu, le retour à Dieu, il se fait par la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est oublié dans l'Église de France aujourd'hui. On n'enseigne plus la parole de A à Z, de l'alpha à l'oméga, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors on fait des sermonnettes, on fait des tas d'activités, on fait du social, c'est bien, mais c'est la parole de Dieu qui doit être la tâche des Églises. Nous vivons dans un pays qui ne connaît pas du tout la parole de Dieu. J'ai un ami qui met des passages très simples sur Internet pour dire que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Ça paraît bizarre pour nos contemporains parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que dit la parole de Dieu. Et nous allons voir que c'est avec la parole que Dieu va causer, après la reconstruction du temple, il va causer un réveil parmi le peuple. Ce réveil dont j'ai besoin personnellement, ce réveil dont nous avons besoin en tant qu'Église, ce réveil dont nous avons besoin en tant que peuple de Dieu en France. Lisons ensemble chapitre 7, verset 1. Après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, survint Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils de Hilkia, fils de Shalum, fils de Tzadok. Je vous préviens, il y aura une interrogation à la fin, une interrogation écrite. Fils de Shalum, fils de Tzadok, fils d'Aïtoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils de Zeraya, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Araon, le souverain sacrificateur. Ces noms sont listés pas pour nous faire trébucher en les prononçant ou nous impressionner par une grande connaissance historique, c'est pour nous montrer simplement la relation entre ce dénommé Esdras, dont le livre porte le nom, et Aaron, le souverain sacrificateur. On voit quelques noms que l'on reconnaît, comme Éléazar ou Phinéas. Phinéas, vous souvenez, c'était celui qui s'était énervé contre l'immoralité sexuelle des Juifs lorsque Balaam avait suggéré à Balak, qui voulait qu'il maudisse le peuple juif, d'envoyer des femmes moabites pour les séduire. Et donc on voit que s'il y avait eu, si les peuples juifs étaient restés à Jérusalem tout ce temps, Esdras aurait été le grand prêtre, le souverain sacrificateur, encore une fois c'est l'expression de Louis II, pour ne pas dire prêtre, le grand prêtre, le souverain prêtre. Et verset 6, il nous expliquait que cet Esdras monta de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Cet homme est remonté avec un groupe de peu près seulement 2000 à 2500 personnes. Longtemps après, le premier groupe qui était revenu avec le gouverneur Zorobabel. On estime qu'entre le dernier verset du chapitre 6 et le premier verset du chapitre 7, il s'est passé 57 ans. 57 ans, et c'est là que le livre d'Esther se situe. On verra, pour ceux qui l'ont jamais encore vu, dans peu de temps sans doute, l'histoire d'Esther qui était... une femme remarquable qui était une des femmes du roi Assuérus, qui était un ancêtre de Artaxerxès. Donc, on se retrouve, Esdras se retrouve à la tête d'un petit groupe, et lui, il va revenir enseigner la parole de Dieu. C'était un scribe. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un est un scribe, c'est-à-dire qu'il fait rien du tout que de la copie, il écrit à la main, il n'a pas un rôle très important. À l'époque, les scribes, c'était des experts, c'est eux qui assuraient la copie des textes. Il n'y avait pas d'imprimante, ni laser, ni à cartouche, d'encre. Il n'y avait pas de presse. Il n'y avait pas d'imprimerie. On avait connu l'écriture cunéiforme, et là on était arrivé déjà à une écriture manuscrite, et ces scribes attachaient la plus grande importance à copier les textes de la parole de Dieu. On pense qu'en fait c'est peut-être Esdras qui a fixé le canon, c'est-à-dire les livres qui ont été reconnus comme des livres inspirés par Dieu dans l'Ancien Testament. Non seulement il recopiait, mais il s'assurait que la copie était parfaite. Ce qui est intéressant, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est qu'ils avaient trouvé des techniques que nos grands informaticiens utilisent aujourd'hui pour s'assurer que la communication par Internet ne commet pas d'erreur. Ou s'il y a des erreurs, elles sont corrigées. Aujourd'hui, quand vous envoyez des messages, il y a des nombres de... On compte les... Dans la codification, le nombre de chiffres impairs ou de chiffres pairs, et il y a un autre chiffre qui est rajouté pour indiquer combien il y a de chiffres pairs et impairs. Et à la réception, on s'assure que la vérification marche toujours. Si ça marche pas, c'est automatiquement réenvoyé et vérifié encore. À l'époque, c'était beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus simple en même temps à comprendre. Ils comptaient le nombre de lettres sur chaque page qu'ils allaient copier. Ils comptaient, ils allaient voir la lettre qui était au milieu de ce texte. Ils faisaient la même chose après avoir copié les textes. Il y a plusieurs types d'erreurs que l'on peut faire en recopiant. Souvent, on peut sauter quelques lignes parce que le mot qu'on avait, avec lequel on avait terminé se retrouve un peu plus loin et on va sauter tout un passage. Mais c'était vraiment un sacerdoce, un ministère. Ils vivaient et c'était leur tâche. Ils avaient tout un rituel de purification avant de travailler sur les textes sacrés. Lorsque les papyrus, ou plutôt les parchemins, devenaient trop usagés, ils étaient jetés dans un endroit qu'on appelait une guénisa, et on a retrouvé des endroits pareils avec des vieux textes, et on a pu ainsi s'assurer que la transmission de l'écriture était d'une fiabilité quasi parfaite. Puis on a fait la grande découverte dans les années 50 des grottes de Qumran, où on a retrouvé des textes qui prédataient de 200 ans les derniers textes copiés que l'on avait, et on a pu voir là aussi qu'il n'y avait aucune variation de sens à 99,5% près. Donc la parole que vous avez entre les mains, c'est la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée à Moïse et aux autres. La bonne chose, c'est que lorsqu'on copie à la main un texte, on l'enregistre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour mémoriser, la meilleure façon pour moi, c'est de copier un texte à la main, de façon manuscrite. Quand nous étions à l'école biblique, il y avait des anciens missionnaires qui vivaient et qui aidaient les étudiants. Et l'un de ces missionnaires m'impressionnait. Tous les jours, il écrivait dans son temps de dévotion, il recopiait des passages bibliques en suivant. Il avait toute une pile de documents écrits à la main. C'était sa propre écriture de la Bible. Et là, on est sûr qu'on ne saute pas des passages où qu'on dit « bon, vivement que j'ai fini parce que je dois aller jouer au foot ou j'ai faim, je vais vite mettre une croix sur ma lecture de la journée ». Non, il prenait tout son temps et là, c'était ce que faisait Esdras. Le résultat, c'est qu'il était un expert dans la loi, dans l'Ancien Testament. Il connaissait la Bible de l'époque. Il n'avait pas encore le Nouveau Testament, mais il connaissait les écrits, le Pentateuque, les prophètes, ceux qui avaient déjà écrit. Il était versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ça, c'est une façon de... C'est un des éléments qui faisait que sa vie était une vie que Dieu pouvait bénir. Dieu va bénir une vie qui est inspirée, qui est nourrie, qui est fortifiée par la connaissance de la parole de Dieu. Et je vous assure que si chaque jour vous lisez un peu de la parole de Dieu, vous allez finir par la connaître. Mon grand regret, c'est de ne pas lire davantage chaque jour. Quand on arrive à mon âge canonique, on se dit « waouh, je devrais connaître la parole sans avoir à la lire ou sans avoir à rechercher ». Maintenant, c'est facile avec Internet, avec Google. Google est plus rapide que n'importe quel programme biblique que vous avez. Vous tapez « Bible » et le passage que vous recherchez dans votre esprit, et vous l'avez en 25 versions, et ce sont des outils qu'on peut utiliser. L'ennui, c'est que ça peut nous inciter à ne pas essayer de faire un effort de mémoire. Ce n'était pas un problème pour Esdras, il connaissait la parole. Et verset 6, une deuxième chose, c'est que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Dieu bénissait sa vie. À moins d'être particulièrement masochistes, schizophrènes, détraqués ou fous, je crois qu'on aspire tous à avoir notre vie bénie par Dieu. Amen. Il y en a peut-être. Et on voit que un de ces éléments, c'était justement cette connaissance de la parole. Et la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Là, tout à l'heure, j'ai rappelé que l'œil de Dieu était sur les anciens des Juifs, au chapitre 5, lorsqu'ils ont construit le temple. Ce sont des façons, des images. Dieu est un esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'a pas des yeux, mais il voit tout, parce qu'il est esprit. Dieu n'a pas de main, parce qu'il n'est pas un homme, mais il a les moyens d'agir dans le monde, dans l'univers. Il est dit que c'est d'une chicnaude qu'il a mis en marche les galaxies. Sa puissance est infinie, sa puissance est inimaginable. On a du mal à parler des dimensions de l'univers. Parce qu'on est tellement habitué à voir des choses finies. Qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être, ça, il doit y avoir, on doit arriver à un mur qui dit fin de l'univers. Puis là, on se dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Et on a vraiment du mal dans notre esprit à concevoir des choses infinies. Parce que nous sommes limités, nous sommes dans la finitude. Je ne sais pas si c'est un mot français ou ségolien. Et le roi lui accorda tout ce qu'il demandait, et on va voir que c'est vraiment la preuve lorsque les gouvernements non seulement vous autorisent à pratiquer votre foi, à avoir des édifices, mais qu'en plus ils subventionnent la construction ou les salaires des prêtres. C'est encore la vérité pour certaines églises traditionnelles en Alsace. Le gouvernement subventionne les cultes, mais l'Alsace, c'est différent à cause de raisons historiques. Il y a le principe et il y a les exceptions. Verset 7. Certains des Israélites, des sacrificateurs et des Lévites, des chambres des portiers, des Néthiniens, montèrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le premier du mois et il arriva à Jérusalem le premier du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Il a mis longtemps, c'était un voyage qui lui a coûté, il aurait pu rester tranquille à Babylone, mais il voulait aller enseigner la parole, il voulait propager la parole de Dieu, il voulait participer au réveil après la reconstruction du temple. On pense d'ailleurs que c'est lui qui a institué le système des synagogues à Babylone, puisqu'il n'y avait plus de temple. Tout ce que pouvaient faire les Juifs, c'était se rassembler ensemble. Le mot synagogue, c'est pas un mot juif, c'est un mot grec qui veut dire syn, synonyme, sympathie, syn, oui. Agog, aller ensemble quelque part. C'est un lieu de réunion, la synagogue. Mais il n'y avait plus les sacrifices, puisqu'il n'y avait plus de temple consacré, il n'y avait plus le culte institué par Moïse à Aaron. Il y avait seulement des réunions, et là, on étudiait la parole de Dieu. Donc l'ancêtre des études bibliques, des groupes de quartier, des églises d'un autre genre où l'on considère la parole de Dieu, on pense qu'on le doit à ce dénommé Esdras. Et il a fait près de, à vol d'oiseau, il y a 800 kilomètres, entre Babylone et Jérusalem, mais il fallait remonter vers le nord en suivant l'Euphrate et redescendre, et ça représentait plutôt 1400 km. Il n'y avait pas EasyJet, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait même pas de voiture, il y avait des animaux et des carrioles peut-être. Donc il a mis du premier mois, il a mis 4 mois à faire ce voyage plein de périls, mais il était résolu. Et il nous est dit au verset 10, et c'est peut-être le verset clé de ce chapitre 7, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Il avait appliqué son cœur. Il le faisait de tout son cœur, on dirait aujourd'hui. Il avait fait tous ses efforts pour d'abord étudier et puis pour pas que ça reste connaissance académique, il avait appliqué son cœur à mettre en pratique la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Enseigner, mettre en pratique et transmettre. Enseigner en Israël la règle, le droit. Trois éléments avec la parole de Dieu. Dieu nous appelle à la considérer et nous appelle à la mettre en pratique. Jacques, dans son épître, a dit de façon remarquable que si quelqu'un écoute seulement la parole sans la pratiquer, il se trompe lui-même. Si vous voulez noter, vous y tournez, c'est page 259 dans la Bible à la Colombe, Jacques 1, 22, premier chapitre, verset 22, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. » Autrement dit, si vous écoutez, si vous venez ici, si vous écoutez des sermons ou le texte biblique en ligne, c'est aussi une facilité que nous avons aujourd'hui, on peut écouter la parole de Dieu sur nos MP3. Si on ne lui obéit pas, si on ne la met pas en pratique, on se met le doigt dans l'œil. On peut avoir le sentiment qu'on est OK, je suis chrétien, je lis la parole tous les jours. Et puis quand je suis au boulot, ça c'est une autre affaire, c'est le monde des affaires, c'est différent. Non, la parole doit inspirer, guider tous les aspects de votre vie. Et puis il a cette très belle illustration, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Le miroir, c'était un luxe à l'époque. Vous pouvez toujours se regarder dans l'eau d'une bassine. Mais l'idée, c'est pas que le matin, quand je me lève, je ressemble à James Bond. J'ai ce qui me reste de cheveux qui part comme ça, j'ai la barbe qui est... J'ai même peut-être bavé un peu sur le coin de la lèvre en dormant. Non, si, je te demande de pas rire, s'il te plaît. Et je suppose que je ne suis pas le seul, mais avant de sortir... On se regarde dans le miroir et on va corriger un peu du mieux qu'on peut. Souvent, on est assez déçu. On voudrait faire de la chirurgie esthétique ou des implants capillaires. Mais on va faire quelque chose. Par contre, il dit, si vous regardez la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Elle vous montre tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et ça, c'est toujours un test certain de la façon dont vous lisez la parole est juste et celle voulue par Dieu. Si vous lisez la parole en disant « Oh là là, les politiques, ils sont malhonnêtes, Hollande, il est immoral, ceci et cela », et puis que vous pensez que vous, vous êtes au-dessus de tout ça, vous n'avez rien compris. Parce que la parole, elle doit d'abord vous toucher. Elle doit vous dire « Pierre, regarde ce que l'immoralité dans laquelle tu vis dans certains points, ou regarde la non-intégrité qui caractérise ta vie dans des aspects, l'hypocrisie qui peut-être veut faire que je veux passer pour plus spirituel que je ne suis vraiment ». L'égoïsme qui est le mien et que je dissimule sous des aspects acceptables. La parole, elle doit être comme une lumière qui montre tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et après, elle est donc comme un miroir, mais si je dis « Oh là là, c'est pas beau !» Je referme la parole et puis j'oublie tout ce que j'ai vu. Je vais être comme cette personne qui se regarde dans le miroir, qui voit qu'il a les cheveux qui partent dans tous les sens, qu'il aurait besoin de se brosser les dents pour enlever les épinards qui sont sur les dents du devant. Et puis qui fait comme si de rien n'était. On trouverait ça bien sûr ridicule, mais on est prêt à le faire avec la parole de Dieu. Et Jacques continue au verset 25 du chapitre 1. « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » La Bible, elle ne nous est pas donnée pour mettre sur une étagère, elle ne nous est même pas donnée seulement pour la lire, même pas pour l'apprendre par cœur, elle nous est donnée pour que nous la pratiquions. Josué nous disait dans son livre, dans le premier chapitre, c'est l'Éternel qui lui parlait et qui lui disait « Fortifie-toi, pardon, c'est le verset 6 du chapitre 1, « Fortifie-toi et prends courage. » Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Autrement dit, je vais t'utiliser. Et le Seigneur nous dit à chacun, prenez le pays que je vais vous donner. Prenez la domination sur le péché. Influencez vos enfants dans les voies de Dieu. Soyez une influence pour Dieu, pour le bien dans votre communauté. Participez au royaume de Dieu. Et verset 7, « Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. » Verset 8, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » On vit dans une société qui a mis le succès dans la vie, comme un but essentiel, et un peu comme on le disait à propos de d'autres choses, mais ce n'est pas en fixant nos yeux sur le succès qu'on va y arriver. Le succès, découle de l'observation de la volonté de Dieu dans nos vies, quelle que soit cette volonté, qu'elle soit déjà clairement exprimé dans toute la parole, et on a vu qu'il y a plein de choses très claires. Soyez toujours joyeux, car telle est à votre égard la volonté de Dieu. Il y a plein d'éléments qui sont clairement la volonté de Dieu. Ne vivez pas dans l'immoralité. Après, il peut y avoir des choses plus particulières que le Seigneur nous révèle par son esprit dans notre vie, épouser telle ou telle personne, rester célibataire, partir dans telle ou telle vocation, se déplacer, aller ailleurs. Toutes ces choses, c'est la volonté de Dieu pour nos vies, et si nous la faisons en s'assurant qu'elle est en accord avec la parole de Dieu, alors on aura des difficultés, comme tout le monde. On vit dans un monde affecté par le péché, mais on aura ce profond succès qui consiste à savoir que Dieu est satisfait de notre vie. Et qu'un jour, il nous dira « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps à notre chère Chantal. Elle est entrée dans la joie du Seigneur. On en a déjà parlé, on en reparlera un peu cet après-midi. Il avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique et à enseigner. La meilleure façon d'apprendre, c'est souvent d'enseigner. Je me souviens, pour une raison, je crois que c'était parce que j'étais assis au premier rang, on avait un prof de maths, c'était en cinquième ou en quatrième, et au lieu de faire le cours lui-même, il envoyait une personne au tableau, et il demandait à la personne, il la guidait, mais il demandait à la personne de faire le cours. J'étais pas spécialement bon en maths. J'avais un autre copain qui était doué. Et tous les deux, ils nous avaient repérés. Moi, peut-être parce que j'étais gentil. Ils voyaient le futur pasteur. Je plaisante. Mais c'était pas tous les cours, mais tous les mercredis matins, ils nous appelaient. On allait au tableau, on prenait la craie, on faisait le cours, guidé par lui. Et très rapidement, j'ai commencé à potasser le cours avant de me retrouver avec un bâton de craie. Je comprends pas. Et le fait que j'avais à enseigner a fait que j'ai étudié encore avec plus d'ardeur. Et c'est vrai dans la parole de Dieu. Et pour enseigner la parole, il n'y a pas besoin d'être pasteur ou missionnaire ou professeur dans une école biblique. Vous pouvez l'enseigner à votre époux, à votre épouse, vous pouvez l'enseigner à vos enfants, vous pouvez avoir un groupe dans votre résidence, vous pouvez au travail, vous pouvez, et c'est en étudiant pour enseigner que vous allez étudier avec insistance et persévérance. Et puis à chaque fois qu'on vous posera une question à laquelle vous n'aurez pas su répondre, vous serez intéressé de trouver la réponse à cette question qui vous a mis dans l'embarras. Donc, cet Esdras, j'aime bien quand il est question de cet Esdras, verset 6, cet Esdras, il avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique et à enseigner. Et trop souvent, on se contente comme le gars qui se réveille mal rasé et qui se regarde dans le miroir et qui referme la parole. C'est pour ça que je vous encourage à prendre des notes quand vous venez ici, certains, ou souligner des passages, à parler avec quelqu'un de ce que vous avez retenu, s'il y avait quelque chose à retenir. C'est pas mes anecdotes, mais c'est de la parole de Dieu qu'il faut retenir des choses. Et souvent, on va faire l'inverse. Et c'est pourquoi il appliquait son cœur, il préparait son cœur. Une autre façon de dire, appliquer, il fixait son cœur. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Dans la prière, dans la louange. Si vous voulez recevoir la parole de Dieu, il est bon de bloquer un peu toutes les interférences avec le monde extérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons prendre un temps de louange étendu avant d'enseigner la parole. C'est pour se fixer nos yeux, nos cœurs sur le Seigneur. Merci à Corinne et Marion qui nous ont encore amenés en présence du Seigneur ce matin. C'est une tâche très importante. C'est pas juste on chante pour chanter. On vient et on chante pour... Alors c'est vrai que le danger, c'est qu'on connaisse certains chants, qu'on aime bien la musique, et puis qu'on les chante machinalement. Réfléchissez aux paroles. Ne dites pas « Je te donne tout, Seigneur ». Et puis quand vient le moment de donner la dîme, « Oh ben ce mois-ci, c'est pas possible ». Ou alors si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire au Seigneur, ne chantez pas. C'est là qu'on va remarquer la salle, silence. On va demander au responsable de la louange de nous donner des noms. Une façon de se mettre en présence du Seigneur, c'est la musique. Vous vous souvenez que David jouait pour le roi Saül, ça lui faisait du bien. Ça ne l'a pas empêché de déraper, mais la musique et les paroles, la louange, prier Dieu, se tourner vers lui, c'est un effort, mais il avait appliqué son cœur. Nous aussi, nous pouvons appliquer nos cœurs. Nous pouvons faire cet effort de concentration, de temps mis à part. On est capable de s'inscrire dans un club de gym. Inscrivez-vous dans une étude biblique. Venez aux études bibliques. On est capable de mettre du temps à part tous les jours pour prendre son petit déjeuner. Prenez une demi-heure ou un quart d'heure ou 10 minutes de plus, levez-vous plus tôt, couchez-vous plus tôt, pour pouvoir nourrir votre esprit par la parole. Et le reste du chapitre, c'est le résultat de cette faveur, qui Dieu met sur la vie de Esdras. C'est de la faveur du roi. On va lire ensemble verset 11. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès au sacrificateur et scribe Esdras qui transcrivait les paroles commandées et prescrites par l'Éternel au sujet d'Israël. Artaxerxès, le roi des rois, au sacrificateur Esdras, scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. Formule de politesse, mais il reprend cette réputation que Esdras avait de connaître la parole, un spécialiste de la parole. Verset 13, « J'ai donné ordre de laisser partir avec toi tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir pour Jérusalem. Tu es donc envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. » Pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Le gouvernement de ces exilés leur donne des ressources financières pour retourner à Jérusalem. Verset 16, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Ils donnent des ressources. Incroyable. Des fois, on se demande comment trouver la volonté de Dieu. Le pasteur Chuck Smith a un petit dicton qu'il utilise justement pour encourager les gens à partir dans la foi, accomplir la mission, que ce soit à l'étranger, dans leur pays, dans leur maison, dans leur famille, en disant en anglais « Where God guides, He provides », qui se traduit facilement en français en disant « Où Dieu envoie, Dieu pourvoit ». C'est même plus court en français. Personne ne connaît cette phrase en France. Mais « Où Dieu envoie, il pourvoit ». Si vous vous demandez si vous devez aller à tel ou tel endroit, Une des bonnes façons de voir, c'est si vous êtes en mesure ou pas de le faire financièrement. Financièrement, mais aussi au niveau des visas, au niveau des ressources, d'un soutien dans la prière. Et là, on voit que Esdras est envoyé, il l'envoie et il pourvoit. Et c'est toujours un encouragement de voir que Dieu pourvoit. On se dit qu'on doit être bien à l'endroit où il nous a envoyés. Et c'était la même chose là, tout l'argent dont il pouvait avoir, Dieu faisait que c'était donné par l'empereur même, le Artaxerxès, le roi des rois à l'époque. Le plus grand souverain de la terre disait, donnez-leur de... Il voulait non seulement qu'ils aient de quoi faire le voyage, mais aussi de reprendre la louange et le service de Dieu dans le temple. Il a même donné les animaux. En conséquence, tu auras, verset 17, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, avec le reste de l'argent et de l'or, vous le ferez selon la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les objets qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. C'est comme si Cahuzac, non, pas Cahuzac, mais Moscovici nous donnait un chèque en blanc. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer ponctuellement au sacrificateur Esdras, scribe versé dans la loi de Dieu, des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. C'est des quantités industrielles. Le talent, c'était 32 kilos, 3 tonnes et demie d'argent. Que tout, verset 23, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux, ce roi païen avait une notion de qui était le Dieu des Juifs. Et on peut être certain que c'est parce que Esdras lui avait parlé. Esdras lui avait enseigné des choses. Tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse avec exactitude pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume du roi et de ses fils. Il n'avait pas frit, mais il avait tout compris. Il voyait qu'il y a une relation entre le bien-être d'un pays, le bien-être d'un royaume, d'une nation, et sa relation avec Dieu. Il demandait en quelque sorte à Esdras de prier pour la nation de Perse. Dieu nous demande de prier pour les autorités. Et c'est vrai que si on prie pour les autorités, pour le président, les premiers ministres, les ministres, on est un peu moins critique. On voit que leur tâche est énorme. Ils n'ont pas une minute à eux. Et quand ce n'est pas tel problème, c'est un autre problème. Ils ont besoin de notre soutien dans la prière. Et on peut prier aussi qu'ils en viennent à s'agenouiller, à s'incliner devant le roi des rois eux-mêmes. C'est pourquoi, verset 24, nous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des nessiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Exemption d'impôt, qui est en partie encore en place en France. On ne paye pas la taxe foncière complètement, on n'en paye que sur la partie qui n'est pas purement réservée aux choses cultuelles, mais il y a encore, remercions le Seigneur pour cela, des exemptions d'impôts. Pour aller beaucoup plus loin. Verset 25, « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Là aussi, c'est le souverain, le roi des rois, le souverain de la plus grande nation qui lui dit « enseigne la parole ». Fais connaître à ceux qui ne les connaissent pas les lois de ton Dieu. Verset 26, quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné soit à mort, soit au bannissement, soit à une amende et à la prison. Vous imaginez ? Le président. Dieu peut changer les cœurs, peut changer la majorité au Sénat, il peut faire que... Dieu est tout puissant. Le cœur du roi est comme un ruisseau entre ses mains, une rivière entre ses mains. Il la dirige où il veut. Psaume 21.1, Proverbe 21.1, pardon. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, a donné une telle splendeur à la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ça, c'est Esdras, qui reconnaît que toute bonne chose vient de Dieu. Il a l'attitude de gratitude. Il ne dit pas « qu'est-ce que je suis béni parce que je connais bien la parole, j'ai des bonnes relations avec les autorités en haut lieu ». Regarde comment le Seigneur me bénit et bénit mon peuple. Non, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à donner une telle splendeur à la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui a étendu sur moi sa bienveillance devant le roi, ses conseillers et tous ses ministres puissants. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi. » La vie d'Esdras était une vie qui pouvait plaire à Dieu parce qu'il avait préparé son cœur, il enseignait, il étudiait, il connaissait la parole, il lui obéissait, il l'enseignait aux autres et la bonne main du Seigneur était sur sa vie. Et à travers elle, cette bonne main, elle était sur le pays. Et puis, il avait cette attitude d'humilité et de gratitude. Donnons à Dieu la gloire qui lui revient, surtout lorsqu'il nous bénit. J'aime bien lorsque, par moments, je dis à certains que Dieu vous bénisse et... Craig, pour ne pas le nommer, aime souvent répondre, mais il le fait, merci. Et puis, ce dernier verset, il montre aussi qu'il avait, étendu, il avait pris avec lui des conseillers pour mener à bien la tâche. L'Église, ce n'est pas un one-man show, c'est un one-God show. Mais le danger... c'est que si on ne délègue pas, et c'est un domaine dans lequel j'ai des progrès à faire, si on ne délègue pas, si on ne fait pas participer tout le monde, on ne va pas aller très loin. Voilà, donc Esdras. Quand vous pensez Esdras, je veux que vous rappeliez de quelqu'un qui connaît la Bible, qui la met en pratique, qui l'enseigne. Et on devrait tous, à notre mesure... être, nous aussi, des Esdras, par sa grâce, la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est source de vérité, source de vie juste, source de bénédiction. Aide-nous à l'apprécier, à préparer nos cœurs, à nous engager à toujours davantage à la connaître, à la lire, à la mémoriser, à la mettre en pratique et aussi à l'enseigner, Seigneur. On voit combien, par cette démarche, tu as béni le peuple juif. Tu as provoqué, on va le voir, un grand réveil. Et Seigneur, c'est ce que nous appelons de nos vœux aussi, Seigneur, de nos prières. Que ta parole soit toujours à l'œuvre dans nos cœurs pour... nous réveiller individuellement, collectivement et au niveau de toute une nation, Seigneur, et de tout un continent même. Seigneur, Le monde qui nous entoure peut penser que tout ça, c'est des choses dépassées, mais nous savons que ta parole est éternelle, que les vérités qu'elle enseigne ne changent jamais, Seigneur, car elles sont ta parole, Seigneur. Toi qui le m'aimes, hier, aujourd'hui, pour l'éternité, sois béni abondamment. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.